Aristote, Métaphysique, livre 5, chapitre 6 à 10. Chapitre 6. Il y a deux sortes d'unités. Il y a ce qui est par accident et ce qu'il est dans son essence. Coriscus est musicien et Coriscus musicien sont une seule chose, car il y a identité entre les expressions coriscus et musicien et coriscus musicien. Musicien et juste et coriscus musicien juste sont aussi une seule chose. Voilà ce qu'on nomme unité accidentelle. En effet, d'un côté, juste et musicien sont des accidents d'une seule et même substance. De l'autre, musicien et coriscus sont réciproquement accidents l'un de l'autre. De même, le musicien coriscus est, sous un point de vue, la même chose que coriscus, car l'une des deux parties de cette expression est l'accident de l'autre partie. Musicien l'est, si l'on veut, de coriscus. Et le musicien coriscus et le juste coriscus sont aussi une seule chose, parce que l'un des deux termes de chacune de ces expressions est l'accident du même être. Et il importe peu que musicien soit accident de coriscus ou que coriscus le soit de musicien. De même encore, lorsque l'accident s'applique au genre ou à quelque chose d'universel. Admettons qu'homme et homme musicien soient identiques l'un à l'autre. Ce sera, ou bien parce que l'homme est une substance une qui a pour accident musicien, ou bien parce que l'un et l'autre sont les accidents d'un être particulier, de coriscus par exemple. Toutefois, dans ce dernier cas, les deux accidents ne sont pas accidents de la même manière. L'un représente, pour ainsi dire, le genre et existe dans les sens. L'autre n'est qu'un état, une modification de la substance. Tout ce qu'on nomme unité accidentelle n'est unité que dans le sens que nous venons de dire. Quant à ce qui est un essentiellement, il y a d'abord ce qu'il est par la continuité des parties. Tel est le faisceau auquel le lien donne la continuité et les morceaux de bois qui la reçoivent de la colle. La ligne, même la ligne courbe, pourvu toutefois qu'elle soit continue, est une. De même aussi, chacune des parties du corps, la jambe, le bras. Disons cependant que ce qui a naturellement la continuité est plus un que ce qui n'a qu'une continuité artificielle. Or, on nomme continu ce dont le mouvement est un essentiellement et ne peut être autre qu'il n'est. Ce mouvement un, c'est le mouvement indivisible, mais indivisible dans le temps. Les choses continues en elles-mêmes sont celles qui ont plus que l'unité qui provient du contact. Si vous mettez en contact des morceaux de bois, vous n'irez pas dire qu'il y a là unité, et non plus que pour le bois, s'il s'agit du corps ou de tout autre continu. Les choses essentiellement continues sont une, même quand elles ont une flexion. Celles qui n'ont pas de flexion le sont davantage. Le tibia, par exemple, ou la cuisse le sont plus que la jambe. La jambe pouvant n'avoir pas un mouvement 1. Et la ligne droite a, plus que la courbe, le caractère de l'unité. Nous disons de la ligne courbe, ainsi que de la ligne anguleuse, qu'elle est une et qu'elle n'est pas une, parce qu'il est possible que ces parties ne soient pas toutes en mouvement, ou qu'elles y soient toutes à la fois. Mais dans la ligne droite, leur mouvement est toujours simultané. Et aucune des parties ayant grandeur n'est en repos, comme dans la ligne courbe, tandis qu'une autre se meut. Unité se prend encore dans un autre sens. l'homogénéité des parties du sujet. Il y a homogénéité quand on ne peut marquer dans le sujet aucune division sous le rapport de la qualité. Et le sujet, ce sera ou bien le sujet immédiat, ou bien les derniers éléments auxquels on puisse le rapporter. On dit que le vin est un et que l'eau est une, en tant qu'ils sont l'un et l'autre génériquement indivisibles, et que tous les liquides ensemble, l'huile, le vin, les corps fusibles, ne sont qu'une seule chose, parce qu'il y a identité entre les éléments primitifs de la matière liquide, car ce qui constitue tous les liquides, c'est l'eau et l'air. Même quand on peut marquer des différences dans le genre, on attribue l'unité aux êtres qu'il contient. Et l'on dit que tous sont une seule chose, parce que le genre qui se trouve sous les différences est un. Le cheval, par exemple, l'homme, le chien, sont une seule chose parce qu'ils sont des animaux. C'est à peu près comme dans le cas où il y a unité de matière. Tantôt, comme dans l'exemple que nous venons de citer, c'est au genre prochain que l'on rapporte l'unité. Et tantôt, dans le cas où les genres immédiatement supérieurs aux objets identiques seraient les dernières espèces du genre, c'est au genre le plus élevé. Ainsi, le triangle isocèle et l'équilatéral sont une seule et même figure parce qu'ils sont triangles l'un et l'autre. Mais ils ne sont pas les mêmes triangles. On attribue encore l'unité aux choses dont la notion essentielle ne peut se diviser en d'autres notions exprimant chacune l'essence de ces choses. De soi, en effet, toute définition peut se diviser. Il y a unité entre ce qui augmente et ce qui décroît, parce qu'il y a unité dans la définition. De la même manière, pour les plans, la définition est une. En général, tous les êtres dont l'idée, j'entends l'idée essentielle, est indivisible et ne peut être séparée ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans la définition. L'unité de ces êtres est l'unité par excellence. Les essences sont dans ce cas. En général, c'est en tant qu'ils ne peuvent être divisés qu'on attribue l'unité aux objets qui ne peuvent l'être. Si par exemple, c'est en tant qu'homme qu'il n'y a pas de division possible, vous avez un seul homme. Si en tant qu'animal, un seul animal. Si en tant que grandeur, une seule grandeur. L'unité est donc attribuée à la plupart des choses, ou parce qu'elles produisent, ou parce qu'elles souffrent une autre unité, ou parce qu'elles sont en relation avec une unité. Les unités primitives sont les êtres dont l'essence est une. Et l'essence peut être une, soit par continuité, soit génériquement, soit par définition. Car ce que nous comptons comme plusieurs, ce sont ou bien les objets non continus, ou bien ceux qui ne sont pas du même genre, ou bien ceux qui n'ont pas l'unité de définition. Ajoutons que quelquefois nous disons qu'une chose est une par continuité, pourvu qu'elle ait quantité et continuité, mais que d'autres fois cela ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit un ensemble, c'est-à-dire qu'elle est unité de forme. Ce ne serait pas pour nous une unité que les parties de la chaussure que nous verrions rangées l'une auprès de l'autre d'une façon quelconque. C'est seulement quand il y a non pas simplement continuité, mais des parties rangées de telle sorte que ce soit une chaussure et qu'il y ait une forme déterminée. C'est alors, dis-je, qu'il y a véritablement unité. C'est pour cela aussi que la ligne du cercle est la ligne une par excellence. Elle est parfaite dans toutes ses parties. L'essence de l'unité, c'est d'être le principe du nombre, car la mesure première de chaque genre d'être est un principe. C'est le principe par lequel nous connaissons un genre d'être qui est la mesure première de ce genre. Le principe du reconnaissable dans chaque genre, c'est donc l'unité. Seulement, ce n'est pas la même unité pour tous les genres. Ici, c'est un demi-ton. Là, c'est la voyelle ou la consonne. La pesanteur a une unité. Le mouvement en a une autre encore. Mais dans tous les cas, l'unité est indivisible, soit sous le rapport de la forme, soit sous celui de la quantité. Ce qui est indivisible par rapport à la quantité et en tant que quantité. Ce qui est absolument indivisible et n'a pas de position. Se nomme monade. Ce qu'il est dans tous les sens, mais a une position, est un point. Ce qui n'est divisible que dans un sens est une ligne. Ce qui peut être divisé en deux sens est un plan. Ce qui peut l'être de tous les côtés et dans trois sens sous le rapport de la quantité est un corps. Et si l'on prend l'ordre inverse ? Ce qui peut être divisé en trois sens de tous les côtés est un corps. Ce qui peut être divisé en deux sens est un plan. Ce qui ne peut l'être qu'en un seul est une ligne. Ce qu'on ne peut dans aucun sens diviser sous le rapport de la quantité est un point et une monade. Sans position, c'est la monade. Avec position, c'est le point. De plus, ce qui est un, l'air ou relativement au nombre, ou relativement à la forme, ou relativement au genre, ou bien par analogie. Un en nombre, c'est ce dont la matière est une. Un en forme, c'est ce qui a unité de définition. Un génériquement, c'est ce qui a les mêmes attributs. Partout où il y a relation, il y a unité par analogie. Les modes de l'unité que nous venons d'énumérer les premiers entraînent toujours les suivants. Ainsi, l'un en nombre est aussi un en forme. Mais ce qui est en forme ne l'est pas toujours en nombre. Tout ce qui est en forme l'est toujours numériquement. L'unité générique n'est pas toujours unité de forme. Elle est toujours unité par analogie. Mais tout n'est pas un génériquement qui est un par analogie. Il est évident aussi que la pluralité doit être mise en opposition avec l'unité. Il y a pluralité, ou bien par le défaut de continuité, ou bien parce que la matière, soit la matière du genre, soit les derniers éléments, peut se diviser par la forme, ou bien parce qu'il y a pluralité de définitions exprimant l'essence. Chapitre 7. L'être s'entend de ce qui est accidentellement ou de ce qui est en soi. Il y a, par exemple, être accidentel quand nous disons « le juste est musicien, l'homme est musicien, le musicien est homme ». De même, à peu près, quand nous disons que le musicien bâtit. C'est parce que l'architecte est accidentellement musicien ou le musicien architecte. Car une chose est ceci ou cela. Signifie que ceci ou cela est l'accident de cette chose. De même aussi, pour revenir à notre sujet, si l'on dit l'homme est musicien ou le musicien est homme, ou bien le musicien est blanc ou le blanc est musicien, c'est dans le dernier cas parce que l'un et l'autre sont les accidents du même être, et dans le premier parce que musicien est l'accident de l'être. Le musicien n'est homme que parce que l'homme est accidentellement musicien. De même encore, on ne dit que le nom blanc est que parce que l'objet dont il est l'accident est lui-même. L'être prend le nom d'accidentel, ou bien lorsque le sujet de l'accident et l'accident sont tous les deux accidents d'un même être, ou bien lorsque l'accident se trouve dans un être, ou bien enfin lorsque l'être où se trouve l'accident est lui-même pris comme attribut de l'accident. L'être en soi, a autant d'acceptions qu'il y a de catégories, car autant on en distingue, autant ce sont de significations données à l'être. Or, parmi les choses qu'embrassent les catégories, les unes sont des essences, d'autres des qualités, d'autres désignent la quantité, d'autres la relation, d'autres l'action ou la passion, d'autres le lieu, d'autres le temps. L'être se prend donc dans le même sens que chacun de ces modes. Il n'y a en effet aucune différence entre ces expressions. L'homme est bien portant et l'homme se porte bien. Ou entre celles-ci. L'homme est marchant s'avançant et l'homme marche ou s'avance. De même pour les autres cas. Être, cela est, signifie encore qu'une chose est vraie. N'être pas, qu'elle n'est pas vraie, qu'elle est fausse. Et cela, dans le cas de l'affirmation, comme dans celui de la négation. Nous disons, Socrate est musicien, parce que cela est vrai. Ou bien, Socrate est non blanc, parce que cela est vrai encore. Mais nous disons que le rapport de la diagonale au côté du carré n'est pas commensurable parce qu'il est faux qu'il le soit. Enfin, être et étant expriment tantôt la puissance, tantôt l'acte de ces choses dont nous avons parlé. Savoir, c'est tout à la fois et pouvoir se servir de la science et s'en servir. Et l'inertie se dit et de ce qui est déjà en repos, et de ce qui peut être en repos. De même encore pour les essences. Nous disons en effet, l'Hermès est dans la pierre, la moitié de la ligne est dans la ligne, et voilà du froment, quoique ce froment ne soit pas mûr encore. Mais, dans quel cas l'être est-il? Dans quel cas n'est-il pas encore en puissance? C'est ce que nous déterminerons ailleurs. Chapitre 8. Substance se dit des corps simples, tels que la terre, le feu, l'eau et toutes les choses analogues. En général, des corps ainsi que des animaux, des êtres divins qui ont des corps et des parties de ces corps. Toutes ces choses sont appelées substances parce qu'elles ne sont pas les attributs d'un sujet, mais sont elles-mêmes sujet des autres êtres. Sous un autre point de vue, la substance est la cause intrinsèque de l'existence des êtres qu'on ne rapporte pas à un sujet. L'âme, par exemple, est la substance de l'être animé. On donne encore ce nom aux parties intégrantes des êtres dont nous parlons, parties qui les limitent et déterminent leur essence, et dont l'anéantissement serait l'anéantissement du tout. Ainsi, l'existence du corps, selon quelques philosophes, dépend de celle du plan, l'existence du plan de celle de la ligne, et pour remonter plus haut, le nombre, d'après une autre doctrine, est une substance, car le nombre anéanti, il n'y a plus rien, et c'est lui qui détermine toute chose. Enfin, le caractère propre de chaque être, caractère dont la notion est la définition de l'être, est l'essence de l'objet, sa substance même. Il s'ensuit que le mot de substance a deux acceptions. Il désigne ou bien le dernier sujet, celui qui n'est plus l'attribut d'aucun autre, ou bien l'être déterminé mais indépendant du sujet, c'est-à-dire la forme et la figure de chaque être. Chapitre 9. Identité. Il y a d'abord l'identité accidentelle. Ainsi, il y a identité entre le blanc et le musicien parce qu'ils sont les accidents du même être, entre l'homme et le musicien parce que l'un est l'accident de l'autre. C'est parce que le musicien est l'accident de l'homme qu'on dit homme-musicien. Cette expression est identique à chacune des deux autres, et chacune d'elles à celle-ci, puisque, pour nous, homme et musicien sont la même chose comme musicien, réciproquement. Aussi n'y a-t-il dans toutes ces identités aucun caractère universel. Il n'est pas vrai de dire que tout homme est la même chose que musicien. L'universel existe de soi, tandis que l'accident n'existe point par lui-même, mais simplement comme attribut d'un être particulier. On admet l'identité de Socrate et de Socrate musicien. C'est que Socrate n'est pas l'essence de plusieurs êtres. Aussi ne dit-on pas tout Socrate comme on dit tout homme. Outre l'idée accidentelle, il y a l'identité essentielle. Elle se dit comme l'unité en soi des choses dont la matière est une, soit par la forme, soit par le nombre, soit génériquement, ainsi que celle dont l'essence est une. On voit donc que l'identité est une sorte d'unité d'être, unité de plusieurs objets ou d'un seul pris comme plusieurs. Par exemple, quand on dit « une chose est identique à elle-même », la même chose est considérée comme deux. On nomme hétérogènes les choses qui ont pluralité de forme ou de matière ou de définition. Et en général, l'hétérogénéité est l'opposé de l'identité. Différent se dit des choses hétérogènes qui sont identiques sous quelques points de vue, non quand elles le sont seulement sous celui du nombre, mais quand elles le sont sous le point de vue de la forme ou du genre ou de l'analogie. Il se dit encore de ce qui appartient à des genres différents, des contraires, et enfin de tout ce qui a dans les sens quelque diversité. Les choses semblables sont les choses sujettes aux mêmes modifications, et celles qui ont le plus de rapport que de différence, et celles qui ont la même qualité. Et quelque contraire que puissent revêtir les choses, si le plus grand nombre des caractères ou si les caractères principaux se ressemblent, par cela seul, il y a similitude. Quant au dissemblable, il se prend dans tous les sens opposés au semblable. Chapitre 10. L'opposé se dit de la contradiction, des contraires, de la relation, de la privation et de la possession, des principes des êtres et des éléments dans lesquels ils se résolvent, c'est-à-dire de la production et de la destruction. En un mot, dans tous les cas où un sujet ne peut admettre la coexistence de deux choses, nous disons que ces choses sont opposées, opposées en elles-mêmes ou bien opposées quant à leurs principes. Le foncé et le blanc ne coexistent pas dans le même sujet. Aussi, leurs principes sont-ils opposés. On appelle contraire les choses de genre différent qui ne peuvent coexister dans le même sujet et celles qui diffèrent le plus dans le même genre et celles qui diffèrent le plus dans le même sujet et celles qui diffèrent le plus parmi les choses soumises à la même puissance. Enfin, celles dont la différence est considérable, soit absolument, soit génériquement, soit sous le rapport de l'espèce. Les autres contraires sont appelés ainsi, les uns, parce qu'ils sont en eux les caractères dont nous parlons, d'autres, parce qu'ils admettent ces caractères, d'autres, parce qu'ils ont produit ou subi, produisent ou subissent, parce qu'ils ont dépouillé ou pris, possèdent ou ne possèdent pas ces caractères et ceux de même nature. Puisque l'unité et l'être s'entendent de plusieurs manières, il s'ensuit nécessairement que leurs modes sont dans le même cas. Il faut bien alors que l'identité, l'hétérogénéité et le contraire varient selon les diverses manières d'envisager l'être et l'unité. On nomme choses d'espèces différentes, celles qui, étant du même genre, ne peuvent s'échanger mutuellement, et celles qui, étant dans le même genre, ont une différence, et celles dont les essences sont contraires. Il y a aussi différence d'espèce dans les contraires, soit dans tous les contraires, soit seulement dans les contraires primitifs, et aussi dans les êtres qui ont la dernière forme du genre, lorsque leurs notions essentielles ne sont pas les mêmes. Ainsi, l'homme et le cheval sont bien indivisibles par le genre, mais il y a différence dans leurs notions essentielles. Enfin, les êtres dont l'essence est la même, mais avec une différence, sont d'espèces différentes. L'identité d'espèce s'entend de tous les cas opposés à ceux que nous venons d'énumérer.